J'aime et j'écoute Radio Plus sur 104.3. Vous êtes à l'écoute de l'Heure Flamande, émission préparée par Michel et Marie-Jo.
Et aujourd'hui, nous allons évoquer un écrivain, Georges Rodenbach. Alors, Georges Rodenbach est issu d'une famille de notables d'origine allemande. Son nom, Rodenbach, est bien consonance allemande. Son père est un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur dans cette jeune Belgique qui est née en 1830. De par sa fonction, eh bien, il est bien sûr amené à se déplacer régulièrement à travers le royaume de Belgique. Et c'est ainsi que, par pur hasard, le petit Georges va naître le 16 juillet 1855 à Tournai. La famille vit à Gand, et d'ailleurs c'est à Gand que Georges Rodenbach va passer toute sa jeunesse, toute son enfance. Il va d'ailleurs suivre ses études dans cette même ville. Il va d'ailleurs faire de très brillantes études. Il va rentrer à l'université de Gand pour suivre des études de droit. Il se destine à une carrière d'avocat. Alors évidemment, le nom de Rodenbach n'est pas du tout inconnu dans le royaume belge. Son grand-père était un chirurgien célèbre qui a fait partie des premiers députés lors de la création de la Belgique en 1830. Il a aussi un grand-oncle qui a fondé la célèbre brasserie du même nom, donc tous les amateurs du breuvage de Gambrinus connaissent bien, et toujours bien sûr à boire avec grande modération. Le jeune Rodenbach, eh bien, lui, via bien sûr sa famille, très vite constitue un réseau de relations importantes. Il se lie d'ailleurs d'une profonde amitié au cours de ses études avec Émile Verhaeren. L'un comme l'autre aime profondément cette Flandre, mais ils écrivent en français. Il faut savoir qu'à l'époque, eh bien, la langue française, depuis le XVIIe siècle environ, eh bien, c'est la langue bien sûr des diplomates dans l'ensemble de l'Europe. Et d'ailleurs, ne raconte-t-on pas que le roi de Prusse, Frédéric II, disait « Je m'exprime en français, mais je parle en allemand à mon cheval ». Donc la langue française était la langue, bien sûr, utilisée essentiellement par les classes dirigeantes, les notables, la grande bourgeoisie.
Ik heb zo'n heimwee naar huis. Hier aan de kust vind ik nog vrede, nog rust. De blauwe zee neemt heel mijn hart met zich mee. Naar het stukje grond waar ik zoveel liefde vond.
Ik heb zo'n heimwee naar huis. Ik droom dag en nacht van het meisje dat op me wacht. De kleur van het zon is als het goud van haar haar. En het hemelsblauw, blauw als die ogen van haar.
Plekje klein,
waar ik zo gelukkig zou zijn.
Schip neem me mee,
heel ver, ver over de zee.
Zwerven is uit,
want ik heb zo'n heimwee naar huis. Oh, mijn lieveling, tril niet meer.
Et San, vous interprétez Heimwee naar huis, la nostalgie de la maison. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus.
Et la nostalgie, justement, le petit George Rodenbach en aura beaucoup. En particulier, en effet, il sera très profondément marqué par la mort de ses deux jeunes sœurs qui décèdent, l'une à l'âge de 13 ans et l'autre à l'âge de 17 ans. C'est un drame terrible qui va d'ailleurs marquer toute la vie de notre écrivain. C'est d'ailleurs la mort qui sera un peu comme en filigrane à travers toute son œuvre. Il a besoin de calme et de solitude. À la fin de ses études de droit, son père l'envoie parfaire son éducation et son métier, surtout à Paris. Le jeune George est plus attiré d'ailleurs par les cercles littéraires que par les cours de droit. Il reste en particulier très marqué par la philosophie de Schopenhauer, empreinte de ce pessimisme caractéristique de ce philosophe. C'est une âme sombre que celle de ce jeune écrivain. Il revient à Bruxelles où il rentre comme collaborateur dans un des plus célèbres cabinets d'avocats de Bruxelles. Mais c'est surtout la littérature qui l'intéresse et bien sûr il commence très vite à s'exercer à la poésie en particulier. Il va d'ailleurs publier son premier recueil de poésie en 1877. Ses premiers recueils vont d'ailleurs rencontrer très vite un grand succès qui lui permettra d'être connu et d'être surtout accueilli dans les cercles, bien sûr, des poètes. Il retourne l'année suivante, en 1878, à Paris, où il poursuit son travail d'écrivain en particulier, mais il accepte de travailler comme correspondant de presse pour un journal bruxellois. Il fréquente naturellement avec assiduité les cercles littéraires, il rencontre de très nombreux écrivains comme Maurice Barrès. Il travaille dans un cabinet, il revient à Bruxelles et où il va travailler dans un cabinet d'avocats chez Maître Picard. Il se consacre toutefois beaucoup à l'écriture. Il collabore en particulier à plusieurs journaux. Sa signature devient une véritable référence par la qualité de ses articles. Il travaille en particulier pour le journal La Flandre Libérale et le journal La Jeune Belgique. Alors le journal La Flandre Libérale n'est pas, comme on pourrait le croire aujourd'hui, un journal écrit en néerlandais, pas du tout. George Rodenbach a eu une éducation, comme je disais en début d'émission, de langue française et bien sûr la haute bourgeoisie, les classes dirigeantes s'expriment essentiellement donc en français. Et comme son ami Émile Verhaeren, eh bien il va chanter la Flandre en langue française.
We zijn nog altijd in de vleur, mijn lief. Al lijkt dat lang niet altijd zo. Nog even zot, maar niet meer zo naïef. Al is serieus zijn geen cadeau. Stel dat je weer eens voor de keuze stond. Kies dan voor mij en zeg dat je het niet moeilijk vond. Jij mijn vrouw zijn, ik je man. Dat is wat ik noem een prachtig plan. De beste keuze die je maken kan, kies mij. Geen slogan, geen tactiek. Ik voer geen campagne, ik mijn politiek.
Het leven is geen engelenkoor. We deden alles, ook wel wat niet mocht, maar we zwommen onze dood. Leven de flipperkast van het bestaan, bluts met de bouw, proberen om niet til te slaan. Jij mijn vrouw zijn. Wat ik noem een prachtig plan, de beste keuze die je maken kan. Kies mij. Ik heb geen slogan, geen tactiek. Ik voer geen campagne, ik mijn politiek. Alleen uitgangspunt soms identiek. Kies mij.
Peters, vous interprétez une chanson très romantique, Kiss May. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus.
Et aujourd'hui, nous évoquons donc Georges Rodenbach, un célèbre poète de Flandre. Et il publie dès l'âge de 22 ans ses premiers recueils qui sont de 30 qualités, qui se fait tout de suite repérer et se faire accueillir dans les cercles des poètes. Il publie en particulier un ouvrage relatant sa jeunesse à Gand, La jeunesse blanche, et c'est un ouvrage qui va très vite rencontrer un très grand succès, aussi bien en Belgique qu'en France d'ailleurs. Il raconte son enfance à Gand, son éducation chrétienne, sa scolarité chez les jésuites. Il devient ce qu'on appelle une figure en vue comme poète de grand talent. Et d'ailleurs, nous allons vous faire entendre ici un de ses poèmes et vous allez pouvoir vous apercevoir de la qualité de son écriture.
Le poète. Quel orgueil d'être seul à sa fenêtre, tard, près de la lampe à mie, à travailler sans trêve et... sur la page blanche où l'on fixe son rêve, de planter un beau vert tout vibrant comme un dard. Quel orgueil d'être seul pendant les soirs magiques, quand tout s'est assoupi dans la cité qui dort, et que la lune seule, avec son masque d'or, promène ses pieds blancs sur les toits léthargiques. L'orgueil de luire encore lorsque tout s'est éteint. Lampe du sanctuaire, au fond des nefs sacrées, survivance du phare au-dessus des marées, dont on ne perçoit plus qu'un murmure indistinct. L'orgueil qu'ont les amants, les moines, les poètes, d'être en communion avec l'obscurité, et d'avoir à leur cœur des vitraux de clarté qui ne s'éteignent pas pendant les nuits muettes. Quel orgueil d'être seul, les mains contre son front, à noter des vers doux comme un accord de lyre, et songeant à la mort prochaine de se dire « Peut-être que j'écris des choses qui vivront. » Donc un poème intitulé « Le poète » tiré de l'ouvrage « La jeunesse blanche ».
Donc écrit donc par George Rodenbach. Il écrit aussi un autre ouvrage qui s'intitule Le Livre de Jésus, où il raconte sous forme de roman en fait, le Christ revient incognito à Gand et personne ne le reconnaît. C'est une ville en pleine mutation industrielle, matérialiste, où l'argent est roi, où s'étale aussi malheureusement la misère des classes populaires broyées par ces usines mangeuses d'hommes et d'âmes. Et donc Georges Rodenbach souffre de voir sa ville d'enfance se transformer, où des quartiers entiers sont rasés pour faire place aux usines.
Je brengt me van de wijs, dat is wat je doet. Ik weet niet hoe het komt, maar het voelt zo goed. Ik ben het kwijt, geen besef van tijd. Jij brengt me van de wijs, voor altijd. Vrienden zeggen dat je mij hypnotiseert. Dat jij me in je macht hebt, is dat dan zo verkeerd? Ik onderga mijn lot, ik word stapelzot, voor altijd. Blijf bij me vannacht, blijf bij me vannacht. Zeg dat je op me wacht, zeg het aan een doel wat zacht. Jij brengt me van de wijs, ben altijd goedgezind. Kan heel de dag dromen van die tijgerprint. Ik ben het kwijt, geen besef van tijd. Jij brengt me van de wijs, voor altijd. Breng me van de wijs, je raakt mij oprecht. Met je mooie vormen en alles wat je zegt. Ben helemaal de weg kwijt. Ben helemaal verloren.
Willy Sommers, vous interprétez... Je traduis le titre. Tu me fais perdre la raison. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus.
Et ce numéro est consacré donc à Georges Rodenbach, célèbre écrivain de langue française, qui est un chantre de la Flandre. Il se crée bien sûr de nombreux liens avec beaucoup d'écrivains célèbres de l'époque, avec en particulier par exemple l'écrivain breton Villers de l'Isle-Adam, mais aussi avec le poète Mallarmé. Georges Rodenbach finit par s'installer définitivement à Paris en 1888. Il va travailler comme correspondant de presse au journal de Bruxelles. Il épouse Anna Maria Urbain, avec laquelle il aura un fils, Constantin. Ce fils d'ailleurs prendra plus tard la nationalité française. Il fréquente aussi en particulier Edmond de Goncourt, c'est un... Chacun le connaît, ce nom, bien sûr, célèbre fondateur donc, du prix du même nom. Et d'ailleurs, il travaille beaucoup avec Edmond de Goncourt. Et d'ailleurs, nous allons écouter ici ce qu'en disait de Rodenbach, le célèbre donc, Edmond de Goncourt.
Monsieur Rodenbach, pour moi, c'est presque le seul poète. Oui, le seul poète vraiment original d'à présent. Il est parvenu à rendre ce que beaucoup ressentent, mais n'expriment point, l'âme des choses. L'âme plutôt triste, dolente. C'est l'atmosphère de ses chambres, des meubles anciens, des étoffes fanées, la vie, l'intimité de la maison qui nous aime, captée comme au reflet des miroirs. Il y a ensuite ces villes flamandes, avec toute la poésie de leur catholicisme du Nord. Bruges, qu'il a décrite, dont il a rendu l'impression poignante de désuétude. J'y ai séjourné. On subit forcément l'impression du milieu. Mais traduire cela, c'est l'insaisissable. Rodenbach y est arrivé. C'est là qu'il est personnel. C'est par l'expression du vague, de l'ambiance, de l'âme des choses. Edmond de Goncourt.
Voilà, s'écrivait donc le fondateur du prix du même nom. Rodenbach, bien sûr, a publié de nombreux poèmes, de nombreux recueils, mais aussi de nombreux romans, et en particulier ce roman qui va le rendre particulièrement célèbre, même si déjà à l'époque de son vivant, c'est une signature connue et reconnue. Alors, 1891, il va donc publier, sous la forme de feuilleton d'abord, son roman Bruges, la morte. Il le publie dans le journal Le Figaro à partir de 1892. Dans ce roman, ce qui est particulier, c'est que le héros est la ville même de Bruges, où Hugues, le personnage principal de ce roman, trouve comme une paix mélancolique dans cette ville si particulière de Bruges, la morte. Nous allons d'ailleurs vous faire partager deux extraits de ce roman qui a rendu donc notre écrivain particulièrement célèbre et souvent, d'ailleurs, on réduit un peu trop facilement Rodenbach à ce seul ouvrage, alors qu'il en a écrit tant et beaucoup de poèmes. Mais Bruges, la morte est certainement donc le roman phare de son œuvre. Écoutons donc ces deux extraits de cet ouvrage.
Il avait ce qu'on pouvait appeler le sens de la ressemblance, un sens supplémentaire, frêle et souffreteux, qui rattachait par mille liens ténus les choses entre elles, apparentait les arbres par des fils de la Vierge, créait une télégraphie matérielle entre son âme et les tours inconsolables. C'est pour cela qu'il avait choisi Bruges, Bruges d'où la mer s'était retirée, comme un grand bonheur aussi. Ça avait été déjà un phénomène de ressemblance, et parce que sa pensée serait à l'unisson avec la plus grande ville, la plus grande des villes grises. Mélancolie de ce gris des rues de Bruges, où tous les jours ont l'air de la Toussaint. Ce gris, comme fait avec le blanc des coiffes des religieuses et le noir des soutanes de prêtres, d'un passage incessant ici et contagieux. Mystère de ce gris, d'un demi-deuil éternel. Car partout les façades, au long des rues, se nuancent à l'infini. Les unes sont d'un badigeon vert pâle ou de briques fanées rejatoyées de blanc. Mais, tout à côté, d'autres sont noires, fusains sévères, eaux fortes brûlées dont les encres y remédient, compensent les tons voisins un peu plus clairs. Et de l'ensemble, c'est quand même du gris qui émane, flotte, se propage, au fil des murs alignés comme des quais. Le chant des cloches aussi s'imaginerait plutôt noir. Or, ouaté, fondu dans l'espace, il arrive en une rumeur également grise qui traîne, ricoche, ondule sur l'eau des canaux. Et cette eau elle-même, malgré de tant de reflets, coin de ciel bleu, tuiles des toits, neige des cygnes voguant, verdure des peupliers du bord, s'unifie en chemin de silence incolore. Il y a là, par un miracle du climat, une pénétration réciproque, on ne sait quelle chimie de l'atmosphère, qui neutralise les couleurs trop vives, les ramène à une unité de songe, à un amalgame de somnolence plutôt grise. C'est comme si la brume fréquente, la lumière voilée des ciels du nord, le granit des quais, les pluies incessantes, le passage des cloches, eussent influencé par leur alliage la couleur de l'air, et aussi en cette ville âgée, la cendre morte du temps, la poussière du sablier des années, accumulant sur tout son œuvre silencieuse. Voilà pourquoi Hugues avait voulu se retirer là, pour sentir ses dernières énergies, imperceptiblement et sûrement sans sabler, s'enliser sous cette petite poussière d'éternité qui lui ferait aussi une âme grise de la couleur de la ville. Aujourd'hui, ce sens de la ressemblance, par une diversion brusque et quasi miraculeuse, avait agi encore, mais d'une façon inverse. Comment et par quelle manigance de la destinée, dans cette bruge si lointaine de ses premiers souvenirs, avait surgi brusquement ce visage qui devait les ressusciter tous? Quoi qu'il en fût du singulier hasard, Hugues s'abandonna désormais à l'énivrement de cette ressemblance de Jeanne avec la morte, comme jadis il s'exaltait à la ressemblance de lui-même avec la ville. Voici donc un premier extrait de Bruges la morte. Un dimanche de mars, qui était celui de Pâques, la vieille barbe apprit de son maître le matin qu'il ne dînerait ni ne souperait chez lui et qu'elle était libre jusqu'au soir. Elle en fut toute réjouie, car, puisque son jour de congé coïncidait avec un jour de fête, elle irait au béguinage, assisterait aux offices, la grand-messe, l'évêque, le salut, et passerait le reste de la journée chez sa parente, sœur Rosalie, qui habitait un des couvents principaux du religieux enclos. C'était une des meilleures, une des seules joies de Barbe d'aller au béguinage. Tout le monde l'y connaissait. Elle y avait plusieurs amis parmi les béguines et rêvait pour ses très vieux jours, quand elle aurait amassé quelques économies, d'y venir elle-même prendre le voile et finir sa vie comme tant d'autres, si heureuse qu'elle voyait avec une cornette emmaillotant leur tête d'ivoire âgé. Surtout, par ce matin de mars adolescent, elle exultait de s'acheminer vers son cher béguinage, d'un pas encore alerte, dans sa grande mante noire à capuchon, oscillant comme une cloche. Au loin, des tintements semblaient s'accorder avec sa marche, sonneries de paroisse unanime, et parmi elles, tous les quarts d'heure, la musique grêle, chevrotante du carillon, un air comme tapoté sur un clavier de verre. Un commencement de verdure printanière donner à la banlieue un air de campagne. Or, bien que depuis plus de 30 ans, Barbe fût en condition à la ville, elle avait gardé, comme toutes ses pareilles, le souvenir persistant de son village, une âme paysanne qu'un peu d'herbe ou de feuillage attendrit. La bonne matinée, et comme elle allait d'un pas allègre dans le soleil clair, émue d'un cri d'oiseau, de l'odeur des jeunes pousses en ce faubourg déjà rustique, où verdoient les sites choisis du minoiteur. Le lac d'amour, a-t-on traduit, mais mieux encore, c'est l'eau où l'on aime. Et là, devant cet étang qui somnole, les nénuphars, comme des cœurs de première communiante, les rives gazonnées pleines de fleurettes, les grands arbres, les moulins à l'horizon qui gesticulent, Barbe encore une fois, eut l'illusion du voyage, du retour à travers champs vers son enfance. C'était aussi une âme pieuse de cette foi des Flandres où subsiste un peu du catholicisme espagnol, cette foi où les scrupules et la terreur l'emportent sur la confiance, et qui a plus la peur de l'enfer que la nostalgie du ciel. Avec pourtant un amour du décor, la sensualité des fleurs, de l'encens, des riches étoffes qui appartient en propre à la race. C'est pourquoi l'esprit obscur de la vieille servante, s'extasiait par avance aux pompes des saints offices, tandis qu'elle franchissait le pont arqué du béguinage et pénétrait dans l'enceinte mystique.
Donc voilà de beaux extraits de cet ouvrage que je vous recommande de lire, bien sûr. Alors, à l'époque de la publication, bien sûr, de Bruges la Morte, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde, puisque, évidemment, Georges Rodenbach figeait un petit peu Bruges dans son passé médiéval. Il ne voulait pas voir les beaux quartiers historiques abîmés par l'industrialisation, et naturellement ces industriels, eux, n'étaient pas très réjouis de cette publication, de cet ouvrage, parce que ça donnait bien sûr une image de la ville très peu dynamique, donc ça pouvait être en conflit avec leurs propres intérêts de progrès.
T.O.P. en een party DJ was kraakzolos hart in Ibrahim. Oh, seks is een last als een leven. T.O.P. de Hansje porno king. Een bazaar en een Vlaamse rapper. En een part-time bazaarkloot. We kantinen lak aan in. En loot more like de beste met respect. Voor buzzer echt hoort. Junior en een ladies man. Zazel danst die lekker in Jeannette. Meisje staan in de leren. Seks dat die wilt. Die wilt liefde, passie en hette. Mijn mooi, mijn mooi. Ik zie aan de hand. Wat zoek ik doen zonder hitte. Mijn mooi, mijn mooi. Dan moet je mee soms wel. Sentimenteel te doen. Mijn mooi 40 is een fenomeen. En af en toe stopt hij zelfs maar babbel. Marten en een nul heb ik dat hij doet. En Marten kan niemand leuk 40 scrabbel. Joost en een drummer namen Naarten. Zaal zo blondeert hij zijn haar. Maar die boot als een nus. Met zijn vrouw en zijn kindjes. Ik zie ze alle vier en echt waar. Mijn mooi, ik zie hem erheen. Wat zoek ik doen zonder hitte. Mijn mooi, dan moet je me soms wel voor me. Sentimenteel te doen.
Oh, mijn mooi, ik zie je onderheen. Hoe ik zoek ik doe, zonder hinder. Mijn mooi, hij moet er niet soms weg. Hoe ik zoek de wereld zin, zonder hinder. Of niet.
Vous êtes à l'écoute de Radio Plus sur 104.3 et l'émission L'Heure Flamande.
Et L'Heure Flamande consacrée donc à Georges Rodenbach, écrivain donc de langue française, mais chantre de notre Flandre. Georges Rodenbach, donc installé à Paris définitivement, il travaille comme collaborateur au journal Figaro. Il rencontre bien sûr de très nombreux écrivains, en particulier le polémiste Octave Mirbeau, qui apprécie d'ailleurs tout particulièrement Georges Rodenbach. Il rencontre aussi Alphonse Daudet, Auguste Rodin, le célèbre sculpteur, Frédéric Mistral. Il côtoie aussi bien sûr des peintres comme Claude Monet, Alfred Stevens, Paul Cézanne. Et donc il fréquente vraiment un milieu intellectuel très riche, très dynamique. Et Georges Rodenbach, bien sûr, et ben tout ça, ça lui plaît, hein, ça lui fait plaisir, ça le stimule. Il continue à publier régulièrement. Il est d'ailleurs en 1894, il est décoré de la Légion d'honneur. Il publie de nombreux contes où l'action se situe, bien sûr, dans sa ville bien-aimée de Bruges. En 1896, il publie Les Vies en Close, qui sont en particulier, disons, d'inspiration du romantisme allemand, qui est à l'époque très en vogue. L'année suivante, il publie en particulier un roman, Le Carillonneur, où il évoque une fois de plus, bien sûr, sa ville très chère à son cœur, Bruges. Il s'inquiète de l'évolution de la ville, il croit voir, bien sûr, que la partie historique de la cité sera détruite au profit de l'industrie. Il est très attaché à ce Bruges médiéval. Il est particulièrement réticent à voir, bien sûr, comme il a pu le voir quand il était enfant, des quartiers de Gand qui étaient détruits au profit de l'industrie. Et il craint la même chose pour la ville de Bruges. Et à l'époque, il y a un gros débat, justement, d'extension. Est-ce qu'on va recréer le port de Bruges, comme par le passé, Bruges, port de mer, ou il y a le second projet, le projet de Zeebruges. Or, bien sûr, pour lui, il préfère que geler un petit peu toute cette situation-là. C'est pas vraiment un homme de progrès au sens où on l'entend aujourd'hui. Et donc, évidemment, il aimerait bien qu'on préserve ces quartiers médiévaux de la belle ville de Bruges. Il meurt le 25 décembre 1898. Il n'a alors que 43 ans. Il sera enterré au Père Lachaise et... on dit qu'il aurait préféré être enterré dans cette ville de Bruges, et d'ailleurs il a écrit un poème dans ce sens-là. Il était vraiment très très attaché aussi bien à Gand que à Bruges. Il aurait certainement aimé reposer définitivement dans cette belle ville de Bruges. Écoutons ce poème.
L'amant de Bruges. Ô ville, toi ma sœur à qui je suis pareille, ville déchue, en proie aux cloches, tous les deux, nous ne connaissons plus les vaisseaux hasardeux, tendant comme des seins leurs voiles au soleil, comme des seins gonflés par l'amour de la mer. Nous sommes tous les deux, la ville en deuil qui dort, et n'a plus de vaisseaux parmi son port amer, les vaisseaux qui jadis y miraient leurs flancs d'or. Plus de bruit, de reflets, les glaives des roseaux ont un air de tenir prisonnières les eaux vides, les eaux veuves, où le vent seul circule pour les étendre en linceul. Nous sommes tous les deux la tristesse d'un port, toi, ville, toi, ma sœur douloureuse, qui n'a que du silence et le regret des anciens mâts. Moi, dont la vie aussi n'est qu'un grand canal mort.
Et donc Georges Rodenbach repose au Père Lachaise à Paris, et ça tombe un peu particulière puisque le sculpteur montre l'écrivain sortant de son tombeau. Donc si vous souhaitez saluer la mémoire de Georges Rodenbach et que vous êtes de passage à Paris, donc vous pouvez bien sûr vous recueillir devant sa tombe au Père Lachaise.
De sportwagens raasden voorbij, de snelste van allen was hij. Een botsing bracht hem van de baan, juist toen hij het record wilde slaan. Zijn meisje smeekte hem toen aan sportrennen nooit
meer te doen. Hij liet het uit liefde voor haar, maar het viel hem zo vreselijk zwaar. Iedereen had verwacht, nam hij op een keer weer de start. Maar niemand wist dat de piloot die dag afspraak had met de dood.
Joe, pauvre Joe, chanté par Will Tura. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus.
Et aujourd'hui, nous consacrons donc ce numéro à Georges Rodenbach. Alors, Georges Rodenbach, qui écrivait donc en langue française, comme son ami d'ailleurs, Émile Verhaeren, ils étaient très attachés l'un comme l'autre à la Flandre. Ils ont bien sûr exprimé à travers leurs œuvres leur attachement à ce pays flamand. Mais on ne peut pas évoquer Georges Rodenbach sans parler d'un autre Rodenbach qui lui aussi était le chantre de l'émancipation de la Flandre. Il s'agit bien sûr de Albrecht Rodenbach. Albrecht Rodenbach en fait est cousin de Georges Rodenbach. Albrecht Rodenbach, il est né le 27 octobre 1856 à Roeselare, Roulers en français. Il est né donc le 27 octobre 1856 et il est cousin donc de Georges Rodenbach et son oncle qui a fondé donc la fameuse brasserie Rodenbach dont on a parlé ici au début de l'émission. Eh bien tout ça font que Albrecht Rodenbach lui aussi baigne dans cette culture très intellectuel, il est très engagé, dont il, comme sa famille d'ailleurs, hein, mais lui, par contre, eh bien, va s'exprimer en néerlandais. Rodenbach, Albrecht, il est particulièrement marqué par son oncle, Pierre Rodenbach, qui a d'ailleurs servi dans les troupes napoléoniennes. Puis après, il s'est rallié à Guillaume d'Orange, contre Napoléon d'ailleurs, pour ensuite faire partie de ces révolutionnaires qui ont fondé donc la Belgique en 1830. Ce personnage, bien sûr, va marquer profondément notre jeune Albrecht, et lui-même va donc s'engager dans la défense de son pays flamand et en particulier de la langue néerlandaise. Il va étudier à l'université catholique de Louvain. À l'époque, seule la langue française est enseignée. Mais lui, il a pris conscience de son identité flamande, de cette richesse de la langue et de la culture néerlandaise. Et donc, il va militer avec d'autres étudiants pour que l'enseignement en université soit fait en langue néerlandaise. Il n'y a pas de raison que le peuple flamand soit privé donc de cette culture, et donc il va défendre avec une certaine fougue bien sûr que le flamand soit mis à la même hauteur, à égalité avec le français. Alors, il a une petite hostilité envers ce qu'il appelle le hollandais, parce que lui, il est profondément catholique, et pour lui, ce qu'il appelle le hollandais, c'est la langue des protestants. Donc, il y a un petit peu un conflit, on va dire, philosophique, mais néanmoins, bien sûr, il fait partie de la grande famille néerlandaise. Alors, Rodenbach, Il a été bien sûr très influencé par le romancier Henri Conscience, avec son livre en particulier « Carols van Vlaanderen », qui est une œuvre romantique relatant bien sûr la résistance des pays flamands. Et donc il va écrire, défendre partout, exiger que l'on enseigne le néerlandais. Il va d'ailleurs écrire un poème qui va servir par la suite d'ailleurs un petit peu de slogan, de ralliement aux militants flamands. Il s'agit de ce poème « Vlucht de Blauwvoet, Storm op Zee ». Et donc on va vous faire écouter d'ailleurs ce poème chanté par les défenseurs de la culture néerlandaise. Ce poème qui est encore chanté régulièrement par les étudiants flamands lors de manifestations pour défendre justement la culture néerlandaise. Albert Rodenbach va décéder très jeune puisqu'il n'aura que 23 ans. Il est mort le 23 juin 1880. Il est enterré dans sa ville natale de Roulers à Roselaar. L'émission touche à sa fin. Eh bien, nous vous souhaitons bien sûr une excellente semaine à l'écoute de Radio Plus.
Lieve meisjes, waar komen ze vandaan? Hoera, daar zijn ze weer, huppelend door de vroege lente. Ze doen alsof ze mij niet zien, geheel volgens de regels van een spel. Van alles op en neer en een goed gezinde wind. Zij niet wouden laten zien en dat zie ik natuurlijk wel. Zij hebben gezien dat ik het heb gezien. En ze lachen omdat ik het zie, dat zij het zien. Dat ik het heb gezien. Lieve meisjes, waar komen ze vandaan? Stop. maakten blij een jaar te samen met hun nieuwe kleedjes uit de kast. Hoofden draaien om, meestal mannen soms.